Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, c'était le 1er novembre 1950, il y a déjà 72 ans, que le pape Pie XII, au milieu d'un grand concours de peuple, 38 cardinaux y étaient présents, en plus de 600 évêques et plus de 600 000 fidèles réunis à Rome sur la place Saint-Pierre et au-delà, sans compter les auditeurs, plus de 100 millions qui suivirent la cérémonie par la radio. C'est alors que le Saint-Père, revêtu de la chape, portant la mitre, après avoir entonné à son trône à genoux le Veni Creator Spiritus, pour demander des lumières et la force du Saint-Esprit, prononça ces mots qui définissaient le dogme de l'Assomption de la Mère de Dieu, que voici. Nous proclamons, déclarons et définissons que c'est un dogme divinement révélé que Marie, l'Immaculée Mère de Dieu toujours vierge, à la fin du cours de sa vie terrestre, a été élevée en âme et en corps à la gloire céleste. Une immense ovation a suivi cette définition, montrant l'adhésion du peuple chrétien à ces paroles prononcées par le vicaire de Jésus-Christ. Mais bien sûr, chers fidèles, les dogmes ne tombent pas du ciel comme ça. On ne les invente pas en suivant sa fantaisie. Tout pour définir le dogme de l'Assomption a été soigneusement examiné. La croyance générale des fidèles de tous les temps, leur piété, l'art religieux, la liturgie, les pères et les docteurs de l'Église, les théologiens. Finalement, la Sainte Vierge, en tant qu'élevée aux cieux, a, pour ainsi dire, réussi son examen. Voyons juste deux arguments en faveur de cette définition dogmatique qu'on trouve dans la constitution apostolique Munificentissimus Deus, c'est-à-dire Dieu très libéral, très généreux, de Pie XII, définissant les dogmes de l'Assomption. L'Assomption de la Sainte Vierge est certifiée par son Fils lui-même, qui lui devait l'amour, l'honneur, la piété filiale. Il est impossible de considérer celle, écrit le pape, qui a conçu le Christ, l'a mis au monde, nourri de son lait, porté dans ses bras, essoré sur son sein, séparé de lui, après cette vie terrestre, sinon dans son âme, du moins dans son corps. Puisque notre Rédempteur, le Fils de Marie, il ne pouvait ne pas honorer sa mère très aimée. Or, il pouvait la parer d'un si grand honneur qu'il la garderait exempte de la corruption du tombeau. Il faut donc croire, conclut Pie XII, que c'est ce qu'il a fait en réalité. Oui, chers fidèles, on a du mal à croire Jésus-Christ, le Fils unique de Marie, attendre du haut du ciel, tout tranquillement, des siècles et des siècles, jusqu'à avoir sa mère, en corps et en âme, à côté de lui. Plus grave encore, comment pouvait-il être indifférent en regardant ce sanctuaire mille fois saint qui est le corps de sa mère, réduit en pourriture et en poussière, ignoré de tous. Pas possible. Le pape compare alors la Vierge Marie à l'Arche d'Alliance et il cite le psaume 131. « Levez-vous, Seigneur, au lieu de votre repos, vous et l'Arche de votre majesté. Levez-vous, Seigneur et l'Arche. » L'image est bien choisie, car l'Arche d'Alliance, faite de bois incorruptibles, placée dans le temple de Dieu, fait penser au corps très pur de la Vierge Immaculée, gardé exempt de toute corruption du sépulcre et élevé à une telle gloire dans le ciel. Pour résumer le premier argument en faveur de l'Assomption, citant saint François de Sales et saint Alphonse. Saint François de Sales. Qui est l'enfant qui ne ressuscita sa bonne mère, s'il le pouvait, et ne l'a mis en paradis après qu'elle serait décédée? Jésus n'a pas voulu que le corps de Marie se corrompît après sa mort, car c'eût été un objet de honte pour lui si sa chair virginale était tombée en pourriture, cette chair dont lui-même avait pris la sienne. Donc c'était l'amour spécial du Christ qui le portait, qui le forçait à vouloir pour sa mère immaculée ce privilège. On peut aussi alléguer un autre argument en faveur de l'Assomption de la Sainte Vierge, argument pour ainsi dire militaire. Que voici. Notre Seigneur, lui, il a remporté une très grande victoire sur le démon, victoire qui comprenait celle sur le péché et sur la mort. Il a vaincu le démon et le péché sur la croix. Il est aussi vainqueur de la mort, qui est la suite du péché, par sa glorieuse résurrection. Or, Marie, Mère de Dieu, a été très intimement associée au calvaire à la parfaite victoire du Christ sur le démon. C'était mystérieusement annoncé au début de l'humanité, après la chute d'Adam et Ève dans la Genèse, nous y lisons. Je mettrai une inimitié entre toi, le bon Dieu s'adresse au diable, et la femme, femme par excellence, la mère de Dieu. Et celle-ci te meurtrira à la tête, elle t'écrasera. Et nous lisons en saint Jean, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère, se tenait sa mère. Elle était comme son fils, debout, comme une guerrière. Elle prenait part à ses souffrances dans la mesure de son amour pour lui. Donc la Sainte Vierge a été associée à la pleine victoire de son Fils sur la mort par la résurrection anticipée et son assomption. Autrement dit, on n'a rien compris jusqu'à là, autrement dit, le combat commun pour l'un sur la croix, pour l'autre au pied de la croix, devait aboutir à la récompense commune. L'ascension pour l'un, l'assomption pour l'autre. Bref, en résumant les deux arguments en faveur de l'Assomption, l'Immaculée est montée aux cieux parce qu'elle est Mère de Dieu et notre co-rédemptrice. Mais pourrait-on dire qu'avant de monter au paradis, la Sainte Vierge est bien morte? C'est ce que nous lisons dans la collecte de cette messe en rite dominicain, où l'on parle de la Sainte Mère de Dieu subissant la mort temporelle, sans être pour autant retenue dans le lien de la mort. Par contre, l'oraison romaine ne parle que de son élévation en corps et en âme dans la gloire du ciel. Qui donc a raison? Est-elle morte ou pas morte? Pour répondre, posons une autre question. Quel inconvénient y a-t-il à subir la mort? Si notre Seigneur, fils de Marie, accepte la mort, veut la mort, pourquoi pas elle aussi, comme lui? Là où passait le Rédempteur, il fallait que la co-rédemptrice le suive. Mais vous diriez, mon père, la mort est un châtiment, châtiment dû au péché. Bien sûr. Mais on peut accepter ce châtiment sans pour autant le mériter, sans en être coupable, comme notre Seigneur, l'agneau innocent. Pourtant, la mort de l'Immaculée différait de la nôtre, car il fallait que même là, la Mère de Dieu soit exaltée et honorée. C'est pourquoi il n'y avait pas chez elle ni souffrance, ni angoisse, ni terreur de l'agonie. Comme son fils qui, par l'acte de sa volonté, a rendu son âme au dernier moment à Dieu, et que c'est cet acte qui a causé la séparation de l'âme avec le corps, ainsi sa Sainte Mère, par un seul acte de sa volonté, un autre « Seigneur, je remets mon âme dans vos mains », a consenti à cette séparation. Cela a dû donner, à ce dernier moment de sa vie terrestre, le caractère de quelque chose de silencieux, doux, serein. De là vient d'appeler cette séparation « dormition ». Dormition. C'était le troisième et le dernier fiat de la vie de la Vierge Immaculée. D'abord à Nazareth, dans sa pauvre maisonnette, le jour de l'Annonciation. Puis au Golgotha. Et maintenant, c'est avec « qu'il me soit fait selon votre parole » qu'elle rend son âme à Dieu. Donc Notre-Dame voulait mourir pour son fils, pour lui ressembler. Elle le voulait aussi pour nous. Oui, chers fidèles, la mort de notre bonne maman du ciel nous profite aussi. Elle nous sert d'exemple. Sa mort est le type parfait, avec celle du Sauveur, de toute mort chrétienne. Elle méritait en outre, en mourant, d'être jusqu'à la fin du monde la protectrice, la consolatrice attitrée des fidèles qui meurent. Et le peuple chrétien l'a bien compris, car il le dit souvent, « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. » Donc, pour répondre à l'objection si la Sainte Vierge est morte ou pas morte, la Sainte Vierge pouvait bien subir la mort. Son âme se serait envolée au ciel, puis après 3 jours, comme pour notre Seigneur, cette âme se serait de nouveau réunie à son corps pour être élevée, maintenant corps et âme, au ciel. Demandons donc à la Sainte Vierge, le jour de son Assomption, la grâce de la bonne mort, grâce de la bonne mort, ce don spécial, ce don gratuit, qu'on ne peut mériter en stricte justice, mais seulement implorer de la miséricorde divine, par l'intercession du Christ Sauveur, par la médiation de celle qu'on appelle la Mère de Miséricorde, le refuge assuré des pécheurs. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.